c'est bon pour la santé.
Avant que notre invité nous accompagne dans notre vie quotidienne à l'écran, de la cuisine à la salle de bain rénovée, on avait peu de modèles comme elle pour une émission, disons, d'intérieur, aussi moderne et qui osait planter et enfoncer le clou. C'est une animatrice tout sourire, qui a la passion non seulement de la santé, mais aussi de la communication qui l'a sauvée. Son père était éducateur de physique. Sa mère lui a légué un cartable de trésor pour nourrir non seulement les gens, mais même deux livres de cuisine. En effet, Claudine a publié en 2017 avec son complice Pierre Vigean « Ma cuisine sans stress » aux éditions La Semaine. Le plaisir à table, il y en avait. Pourtant, Claudine, très jeune, a dû composer avec les troubles alimentaires. Elle a pourtant repris confiance, repris goût pour notre plus grand bonheur, aujourd'hui encore. On reçoit Claudine Desrochers.
Catherine Baudoron, avec le docteur François Baruel, on plonge dans l'univers de Claudine Desrochers. Bonjour Claudine.
Bonjour Claudine. Bonjour.
Alors Claudine, aujourd'hui nous allons faire une émission à partir de vos préoccupations santé. Nous accueillerons pour ce faire les chroniqueuses Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, qui va parler des troubles alimentaires. Chantal Goyette, spécialiste du monde des cosmétiques, qui va présenter l'impact et la confection des cosmétiques véganes. Et Mali Pradichit, nutritionniste.
Bonjour Claudine, alors c'est vraiment très gentil d'être venue parmi nous.
Ça me fait plaisir, merci de l'invitation, ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous.
On fait une émission de santé, on se préoccupe de la santé en général. J'aimerais savoir votre rapport à la santé de manière générale, c'est quoi?
Il est quand même important, mon rapport à la santé, parce que, premièrement, je suis née avec une malformation congénitale à la naissance. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, puisque j'ai été guérie à l'âge de 3 ans. Mais les souvenirs que ça a créé dans ma famille, mes parents, ma mère, tout ça, ça a été très, très difficile pour eux, là, ces 3 années de ma naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, où j'étais carrément entre la vie et la mort. Donc, la santé est devenue quelque chose de très précieux dans la famille. Mon père est un professeur en éducation physique. Ma mère a fait beaucoup de courses à pied aussi, donc beaucoup de sport dans la famille. Mon père, j'ai toujours vu mon père prendre beaucoup de vitamines le matin, des suppléments et tout ça. Donc, non, la santé, c'est quand même proche de nous, sans être excessif. Je trouve qu'on a quand même un bon rapport, un bel équilibre vis-à-vis de la santé.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pour être en santé?
Concrètement, je vais marcher tous les matins avec mes petits toutous. J'ai 3 chiens. Et ça m'apporte énormément. Premièrement, on les adore, nos petits toutous, c'est certain. Et ils nous obligent à être ancrés dans l'instant présent. Donc déjà là, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit. Le fait d'aller marcher en pleine nature tous les matins, je trouve que ça nous permet d'entrer en contact avec une belle énergie. Ensuite, boire beaucoup d'eau le matin. Je prends aussi des suppléments, bon, des oméga, de la vitamine D. Bon, tu sais, je fais quand même attention. Une journée sur deux, des fois, je l'oublie, mais tu sais, je panique pas avec ça. Je m'alimente bien, dans le sens que ce n'est pas un dictat que je me donne, mais plutôt une attirance qui est naturelle envers les fruits, les légumes, ce genre de choses. Mais tu sais, je vais prendre un verre de vin, puis la fin de semaine, je peux faire de temps en temps des petits excès. Mais donc, je pense que j'ai un rapport quand même assez sain. Et puis, lorsque j'ai vraiment un petit peu plus de temps dans mon horaire, là, je suis un peu coincée ces temps-ci, mais j'aime beaucoup faire du yoga. Je ne suis vraiment pas une spécialiste, mais j'ai commencé à en faire et ça m'apporte beaucoup au niveau de la souplesse.
Mais vous êtes un modèle parfait. Vous êtes un modèle parfait. Vous buvez de l'eau, vous faites du yoga, vous faites de l'exercice.
Ben, pas assez à mon goût. Donc, disons que on veut toujours atteindre la perfection. Je ne l'atteins pas nécessairement, mais je pense qu'il y a quand même des belles tendances dans ma vie qui sont plus orientées vers la santé que vers le déséquilibre.
Mais Claudine, vous avez plusieurs secrets beauté, on va en parler tout au long de l'émission.
Oui.
Mais plus jeune, vous avez vous avez eu une maladie mentale, on peut appeler ça ainsi. Vous avez eu un trouble alimentaire.
Absolument.
C'était de la boulimie, de l'anorexie.
Oui, un mélange des deux. Vers l'âge de 16 ans, ça a commencé tout ça. Ça a peut-être coïncidé avec le fait que je change d'école. J'ai passé de la polyvalente à une école privée. Donc, moi, étant un peu perfectionniste de nature, toute jeune, j'avais cette tendance-là. Il paraît que j'étais à la maternelle, puis si la professeure demandait de faire un dessin, j'angoissais là, parce que j'avais peur que mon dessin ne soit pas correct. Là, donc, j'avais ce trait-là à la base. Et là, en arrivant dans une école privée, j'ai l'impression que ça me stressait. C'est mon interprétation. Et en plus, ça coïncide avec l'adolescence. Je regardais le magazine Clin d'œil qui faisait toujours des concours de mannequins, mannequins Clin d'œil à cette époque-là. Et je voulais être mannequin, puis tout ça. Et mes trois copines ont dit, on va suivre un régime, embarque-tu, on suit un régime. J'ai embarqué avec les filles, donc faire plus attention le midi. Mais moi, compte tenu que cette dynamique-là de vouloir être, tu sais, la perfection et tout ça, j'ai pas pris ça à la légère. Je suis devenue un peu trop sérieuse dans ça. Et là, ben c'est pas très, très long. Hein. Quand on commence à se priver au niveau de la nourriture, ben ce qui arrive, c'est souvent l'inverse. C'est qu'on va plutôt axer, on va avoir faim, on va penser juste à ça, on devient obsédé par la nourriture. Donc, j'étais pas une anorexique mentale, l'anorexie mentale, donc les filles vraiment qui c'est du suicide à petit feu, qui ne veulent absolument pas manger. Moi, c'est l'inverse, j'ai toujours été gourmande, la nourriture a toujours fait partie de la famille, mais je voulais me contrôler, me restreindre, puis souvent c'est l'inverse qui se passait. Fait que j'avais des périodes où je mangeais pas beaucoup, puis d'autres périodes où je mangeais beaucoup, donc je passais de l'anorexie à la boulimie, et tout se passait dans ma tête. C'est pas quelque chose que t'oses dire à ta famille, ou c'est comme un peu gênant.
Mais qu'est-ce qui vous a ramené finalement à vous sortir de ça? Qu'est-ce qu'on... Les personnes qui vivent ça aujourd'hui, qui sont à l'antenne, c'est quoi le déclic? Comment on fait pour retourner dans le droit chemin?
C'est difficile. C'est quand même difficile. Moi, j'ai été envahie avec cette obsession-là pendant des années.
Combien d'années?
Plusieurs années. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Je vous dirais peut-être un 4-5 ans facile où tu penses à ça presque 24 heures sur 24 et les gens s'en rendent pas trop compte. Surtout quand tu fais anorexie boulimie, ton poids varie d'à peu près 5 livres, pas plus. Hein. Parce que tu te restreins, là tu manges plus, mais il n'empêche que tu penses toujours à ça. Et ce qui... ben en fait, c'est ma passion des communications. C'est arrivé dans ma vie. J'ai commencé à faire de la radio. J'ai commencé à faire un petit peu de télé, point de vue corporatif, des petites vidéos corporatives. Puis là, je me suis mis tellement à aimer ça que dans ma tête, le temps que je mettais à penser à la nourriture, je l'ai plutôt mis sur une passion, sur quelque chose qui m'apportait un plus puis qui me nourrissait, mais d'une autre façon.
Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce que vous dites... Si je comprends bien votre démarche, c'est pour se sortir de mal, c'est se reconnecter à nos plus profonds retranchements, se faire confiance et aller de l'avant.
Oui, en tout cas, moi, dans mon cas, le fait d'être connecté à ce qui me fait vibrer, la communication intérieurement, le fait d'avoir eu... Puis je suis chanceuse d'avoir trouvé ça, d'avoir connecté avec la radio, la télé. C'est vraiment ça, ça m'a permis beaucoup, beaucoup de pouvoir essayer de dériver mon esprit puis mon obsession vers quelque chose de négatif, vers le positif. Donc moi, je dirais aux gens, trouvez-vous une passion. Quand on est tout petit, quand on est jeune, souvent on le sait, est-ce qu'on est attiré vers le dessin, vers la peinture, vers la nature, vers la photo, vers les animaux. Essayez de voir, quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous passionnait. Je pense que ça reste inscrit en nous.
Vous donnez d'ailleurs des conférences. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui voudraient s'en sortir, qui n'ont pas forcément de passion? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes sortes de choses. Il faut mettre la gêne de côté. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai entendu à la radio communautaire de Saint-Gabriel-de-Brandon, « Nous avons besoin de bénévoles, appelez au 835, talalala. » Moi, mes copines étaient là, « Hein? » Mais franchement, tu sais, radio communautaire, c'est quétaine que ça. Puis moi, ça a fait comme, hein, j'ai le goût. Et j'ai appelé, malgré que mes copines me trouvaient tellement quétaine d'appeler là, j'ai appelé, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi une petite formation, j'ai commencé à animer des émissions bénévoles. Et j'ai adoré, et ça m'a amené à vivre une belle carrière. Donc, je dis aux jeunes, mettez la gêne de côté, suivez votre cœur. Si ça vous le dit de je sais pas moi, on propose, comme par exemple à Saint-Bruno-de-Montarville, dans Mont-Patelin, il y a une école de théâtre qui s'appelle le Tapis Rouge. Vous êtes gêné, mais vous avez toujours voulu faire du théâtre. Allez-y, essayez. Vous allez rencontrer des gens, vous allez vous ouvrir vos horizons. Vous allez peut-être voir que vous allez adorer ça. Vous, bon, des cours de cuisine chez l'Aubla, il y en donne la fin de semaine. Vous n'osez pas le dire, mais vous capotez, vous aimez ça, cuisiner. Ouvrez vos horizons, regardez les activités puis les ouvertures qu'il y a autour de vous, dans votre patelin, des choses pas chères, souvent gratuites.
C'est saisir en fait toutes les opportunités,
oui,
si je comprends bien.
Pour apprendre à se connaître.
C'est ça.
Plus on se connaît jeune, oui, plus on est capable de savoir ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Oh, ça, ça me passionne, ça, ça me fait triper. Et là, à ce moment-là, notre vie peut changer parce qu'on ouvre des portes.
Ce qui m'épate chez vous, c'est que vous avez eu un trouble du comportement alimentaire et en fait, vous avez saisi ce trouble du comportement alimentaire pour justement faire quelque chose qui vous plaît et vous réaliser par ailleurs.
Transformer l'énergie négative en positive.
Ça, c'est formidable, ça.
Ben, ça a été difficile. J'avais un chum à ce moment-là qui a été très gentil, par contre, parce qu'il s'en est rendu compte. Parce que moi, c'était grave, là. C'était pas le fun, là, ce que je vivais, là.
Oui.
Parfois, je me faisais vomir. Après des repas où toute la famille était là, puis « OK, prends du dessert », je me sentais tellement coupable, je voulais pas ingérer tant plus de calories par jour. C'était pas Jojo, là, début vingtaine, là, fin de l'âge adulte. Et il s'est rendu compte de mon petit manège. Et puis au lieu de me culpabiliser, il m'a dit « C'est pas bon pour toi, tu seras pas heureuse, je suis là, tu sais. » Et ça, là, parce que souvent... Ce que les gens ne savent pas, c'est comme si ça n'existe pas.
Et l'amour est salvateur. Ça a été un homme bienveillant.
Oui, à ce moment-là, il y avait ça. Il y avait les communications qui commençaient. Et puis, moi qui me disais, je peux pas, c'est pas le fun. Il n'y a rien de positif dans ça. Alors, faut que j'aille de l'avant.
Ici Catherine Bourderon, au microphone, je suis avec le docteur Baruel, avec Claudine Desrochers à l'émission « C'est bon pour la santé ». Claudine, la nourriture a toujours fait partie de votre
oui.
vie. Là, vous avez sorti deux livres, « Ma cuisine sans stress », »,« Claudine, ma cuisine express », en
oui.
plus ça rime. D'où vous est venue l'envie d'écrire des livres de recettes?
Ben, c'est vrai, premièrement, oui, ça a toujours fait partie de ma vie. Et je vous dirais quelque chose, une anecdote quand même drôle. Quand j'étais toute petite, à cause de ma malformation congénitale du système digestif, ils se sont rendus compte que jusqu'à l'âge de 3 ans, je ne goûtais pas aux aliments. Alors, quand j'ai été guérie, je cachais des bananes sous mon oreiller et des pots de caramel grenache. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui.
Et donc, je mangeais, j'aimais ça. Alors, la nourriture a toujours fait partie de ma vie, que ce soit positif ou négatif avec l'anorexie boulimie. Et plus tard, l'émission de cuisine qui est arrivée dans ma vie, j'ai toujours été entourée de chefs et j'ai toujours été, dans le fond, gourmande. Et puis, mon rôle à tout simplement Claudine, c'était de faire des petites recettes express à la fin de chaque émission. Alors, j'ai eu une demande, en fait, de faire des livres de recettes. Claudine, pourquoi tu ne nous ferais pas des recettes faciles, des recettes express que tu faisais à l'émission? Et j'ai fait, ben oui, c'est vrai, parce que dans ma vraie vie, avec une ado, avec un cheval, avec trois chiens, mon mari, mon travail, j'ai pas le temps de cuisiner pendant 5 heures.
Qu'est-ce qui était plus difficile à nourrir, votre cheval ou votre mari?
Mon mari!
Puis là, vous dites ma cuisine sans stress. Impossible! C'est impossible!
Mais oui, c'est possible!
Impossible!
Mais oui, c'est possible!
Avez-vous
un
des
petit
trucs?
Bouillon de poulet, des petites nouilles, des légumes, vous faites un bon petit potage. Mais oui, en fait, des trucs, c'est pas compliqué. Dans mon livre, c'est 5, 6, 7, 8 ingrédients, pas plus. Des ingrédients qu'on trouve facilement à l'épicerie et des étapes qui sont simples également. Donc, tout est dans la simplicité, autant dans les deux livres, c'est le même thème.
Mais votre mère a eu un rôle à jouer dans ces livres-là.
Oui, ma mère.
On veut tout savoir.
Oui, absolument. Il y a eu Pierre Vigent, qui est traiteur, qui est chef, qui m'a aidé à organiser, orchestrer toutes les recettes, qui m'a inspirée aussi. Mais une grande inspiration vient de ma maman, qui avait un cartable avec plein de recettes familiales à l'intérieur, des recettes qu'elle prenait de ma grand-mère, d'une de ses cousines, tantes, etc. Et quand j'étais à l'université, elle m'a demandé de recopier à l'ordinateur toutes les recettes. Et quand je suis partie de la maison, vraiment en appartement et tout, ma mère a dit, garde, Claudine, t'as pris le temps de tout écrire les recettes. Je les connais par cœur, moi, les recettes. Je te donne le cartable. Alors, je l'ai en ma possession. C'est sûr que ça m'a inspirée.
Et c'est dans les deux livres ici?
Pardon?
C'est dans les deux livres.
Ben, des inspirations, oui, pas vraiment précisément.
Okay. Moi, je pars, avec
d'autres.
Je pars avec celui-là ce soir. OK. Hey, ce que je trouve intéressant, Claudine, c'est que vous avez un rapport à la santé, à la cuisine, à la nourriture, mais à la beauté aussi.
Oui.
Donc, vous êtes une femme inspirante et vous avez beaucoup de créations. Vous avez mis sur pied des produits de beauté. Moi, j'ai ma première question.
Oui.
Lorsqu'on est une femme et qu'on travaille à la télé, est-ce que c'est facile de vieillir à l'écran?
Ben, écoutez, c'est une bonne question. Parce que j'aimerais vous dire oui. C'est pas si simple que ça. Surtout à la télé, parce que c'est une question d'image. Veux pas. Nous-mêmes, moi-même, en tant que téléspectatrice, quand je vois des gens à la télé, on dirait qu'instinctivement, on regarde l'apparence extérieure, puis on a un jugement qui est inconscient, qui est là, bon. Et à la télé, en plus, avec la technologie haute définition HD, on voit tout. On voit les petits cernes, on voit les petites rides. Alors, c'est pas si évident que ça. Il faut prendre soin de sa peau. Il faut nous-mêmes faire attention. Tu sais, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, avoir un régime, pour avoir un beau teint quand même, une belle peau. Mais non, c'est pas si simple que ça.
C'est
par
quoi
contre,
ces produits-là? Les produits... Excusez-moi de vous couper la parole.
Pas de problème,
mais
oui.
C'est parce que là, on voit les produits. C'est quoi,
chaque petit cosmétique.
C'est quoi? D'abord, ça vient d'où cette idée-là?
Ça vient vraiment d'une idée. En tout cas, Nathalie et moi, Nathalie Lavoie et moi-même, Nathalie est esthéticienne depuis 28 ans, a toujours pris soin de ses clientes.
Mais votre mère aussi, non, prenait soin de sa peau?
Ben, en fait, ma mère, non, plus ou moins. Vous voulez l'origine? Ma mère ne prenait pas vraiment soin de sa peau. Elle avait une belle peau naturelle. Mais elle avait une copine qui est d'origine allemande, qui avait déjà été mannequin plus jeune, qui a toujours pris soin de sa peau. Et elle venait souvent prendre un café l'après-midi, la fin de semaine. Puis elle se mettait à jaser et tout et tout. Et moi, j'étais adolescente, puis je l'écoutais, je buvais ses paroles parce que je voulais voyager. Puis dans mon petit patelin de Saint-Gabriel de Brandon, la dame allemande qui avait voyagé partout dans le monde, et moi, je buvais ses paroles. Et quand elle parlait de soins de visage, d'exfoliation, de masque, d'hydrater, de ci, de ça, oh wow! Je capotais, je l'écoutais, puis là, elle m'avait tout expliqué comment avoir une belle routine, prendre soin de sa peau. Et donc, j'ai commencé, adolescente, à demander des produits de soins. Et j'aimais tellement ça que je me suis même demandé si j'allais pas devenir une spécialiste beauté, esthéticienne ou tout ça, rendue au cégep.
Mais ça veut dire quoi?
Shakti. Shakti, c'est une déesse indienne. Dans l'hindouisme, cette déesse-là, elle signifie le pouvoir créateur des femmes. Et c'est une déesse qui est très joyeuse, qui guérit tout par l'amour. Donc, Nathalie et moi, ça nous a beaucoup inspirés parce qu'on est des mamans très dévouées, on est des femmes d'affaires dynamiques et on aime la créativité. On trouvait que ça nous ressemblait.
Ça se trouve où, ces produits-là, sur Internet?
Oui, sur notre boutique en ligne, shaktikosmetic.com. Et là, j'ai une très bonne nouvelle. Nous allons être distribués par BioEco Canada, qui est une toute jeune compagnie qui va distribuer des produits cosmétiques biologiques, dont pour femmes enceintes et jeunes mamans, etc., et shaktikosmetic. Alors, vous risquez dans les prochaines semaines et les prochains mois de nous retrouver soit dans les pharmacies, les centres d'esthétique, etc.
C'est quoi la particularité de cette ligne de produits?
Tout, premièrement, la qualité de nos ingrédients.
Mais c'est sûr, Claudine.
Ah, mais ça, c'est certain. Mais premièrement, c'est une ligne anti-âge, donc qui va hydrater.
Mais le contenu, c'est fait de quoi? En quoi il se démarque des autres produits?
Ben, en fait, c'est un trio d'ingrédients. Oui. On a des huiles végétales que je dis précieuses, comme de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile d'argan, de l'huile d'argousier, qui est un petit fruit qui pousse ici, au nord du Québec, qui est extraordinaire pour la peau, et d'autres huiles aussi, d'huile de rose, etc. Des huiles essentielles extraites à froid pour ne pas altérer les molécules. Dénaturer les molécules, donc qui sont évidemment choisies pour leur pouvoir pour la peau. et aussi des ingrédients de la biocosmétologie, vitamine C brevetée, glycogène breveté, je pourrais vous dire à quoi ça sert, mais bon.
Alors Claudine Desrochers, votre gamme de produits est-elle utilisable par tout le monde, c'est-à-dire même par des gens qui ont eu des maladies, même des maladies graves?
Oui, absolument, c'est certain, puisque à l'intérieur, il n'y a aucune molécule, aucun perturbateur endocrinien. Donc, ça peut être, oui, effectivement, recommandé aux gens qui ont eu des problèmes de santé. Par contre, compte tenu qu'il y a quand même pas mal d'huile essentielle, entre autres dans le sérum et tout ça, peut-être que pour les femmes enceintes, faut peut-être avoir quelques restrictions.
Et qui allaitent,
effectivement.
Maintenant, Félix et Django, entre Paname et Montréal, dans un sentier près d'un ruisseau, font des chansons sous les étoiles.
Nous sommes avec Chantal Goyette, spécialiste du monde des cosmétiques. Bonjour Chantal.
Allô?
Ça va bien?
Merci, oui.
Oui, alors on a la belle Claudine, le docteur Baruel, on s'amuse comme des petits fous. Ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'ici on parle de cosmétiques. Pendant très longtemps, on a fait des tests sur les animaux. Est-ce que c'est encore le cas pour les cosmétiques?
Malheureusement, c'est encore le cas. Malheureusement, c'est encore le cas, mais heureusement, il y en a de moins en moins. C'est sûr, si on regarde aux États-Unis, au Canada et surtout en France, où en France, on ne peut plus le faire, il y en a de moins en moins. Par contre, en Chine, on le fait encore. Mm. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est que les compagnies cosmétiques qui sont conscientisées à nos petites bêtes à poil, finalement, ont trouvé des meilleurs moyens pour tester les produits. Donc, on peut reproduire de la peau artificielle, de la cornée artificielle, de par des cellules humaines. Et comme ça, on peut faire nos tests pour les formulations de produits pour les irritations cutanées ou l'irritation de la cornée.
Ah, d'accord. Ben, ça, c'est rassurant de savoir ça. Parce que nous, nos produits sont effectivement non testés sur les animaux. Ils sont véganes aussi. Donc, il n'y a aucune molécule animale dans nos produits.
Et ces ingrédients, en fait, ils servaient à quoi? À quoi est-ce que, dans les tests, on les utilisait? À quel niveau?
Bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, peut-être ce qu'on peut revenir, pour être certaine que tout le monde comprenne, c'est quoi un produit cosmétique vegan aussi? Parce que ça ne se limite pas seulement à ne pas tester sur les animaux, on le sait. Donc, c'est plus que ça, c'est de ne pas utiliser aucun produit avec des dérivés animaux, y compris leurs sécrétions. Parce que certains produits qui sont faits à base de sécrétions que sur les poils des animaux. Donc, absolument pas. Et même les pinceaux, comme je commençais à dire. Mm-hmm. Donc, nos pinceaux à
faire
avec
des poils de martre ou des choses comme ça.
À poils de marre de Kolinsky, de chèvre ou de poils synthétiques. Mm-hmm. Donc, ça aussi, ça compte pour être dans le 100%
vegan. Dans le 100% vegan. Comme par exemple, on n'a pas de cire d'abeille à l'intérieur de nos produits parce que la cire d'abeille, ce n'est pas vegan.
Ouais. Non, la cire d'abeille, c'est la cire qui est faite par les ruches, les abeilles. Donc, les produits qui sont utilisés, il y a souvent de la cire d'abeille, sont utilisés dans les bons malèvres. On peut utiliser de la
cire... C'est très bon, la cire d'abeille, en passant.
C'est très bon parce qu'on a de la cire d'abeille qui est bio aussi. C'est donc, ça dépend à quelle consommatrice qu'on veut. Donc, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas des bons produits.
Exact.
Mais dans les produits avec des animaux, il y a la cire d'abeille qui est utilisée. Il y a aussi le carmin. Le carmin, qui est le pigment rouge. La cochenille, exactement. Ouais. Donc, celle-là a été vraiment controversée parce qu'on sait que si on utilise le carmin, la petite cochenille, elle meurt. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est pris sur les poils. Donc, il y a la cire d'abeille, la cochenille. Il y a aussi le collagène animal qui est souvent utilisé pour leur pouvoir pulpant ou raffermissant. Donc, on va essayer d'utiliser des produits peut-être plus minéraux ou végétaux. Vous avez la guanine qu'on utilise de l'écaille des poissons pour faire la nacre des produits. Donc, ça aussi, on essaie de ne pas les utiliser. Vous avez la kératine. Vous savez la fameuse kératine qu'on met dans les shampoings pour les cheveux ou pour les cils, les mascaras, qui renforcit. Ça aussi, ça provient... c'est un ingrédient qui vient
de source animale.
Merci beaucoup. De source animale. Donc, on essaie de remplacer par des produits de source minérale et ou encore végétale si on veut être 100% vegan.
Il y a une grosse demande, alors, apparemment. Il y a beaucoup de préoccupations de ce côté-là. Est-ce que les femmes ou même les hommes qui se maquillent, pourquoi pas, est-ce qu'il y a une grosse demande de ce côté-là?
Grosse demande, peut-être pas, mais de plus en plus conscient.
Oui.
Donc, les gens, la grosse demande, est-ce que leurs produits ne sont pas testés sur les animaux? Ça, maintenant, c'est oui, une des premières questions. Par contre, vegan, ça commence de plus en plus. Les gens commencent à être de plus en plus conscientisés et quelques produits, comme Shakti, commencent à travailler de cette façon-là.
D'accord, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une grande variété de produits cosmétiques de source végane maintenant?
Bien, il y a la gamme Kat Van Beauty qui est faite de la fameuse tatoueuse qui a fait du maquillage, qui depuis 2016 a tout changé sa gamme à 100% végane. Il y a Dermalogica qui faisait leurs produits en Chine auparavant. Depuis qu'ils ont cessé la production, ils sont devenus 100% végane aussi. Mm-hmm. Vous avez Boutique Jacinthe qui ont quelques produits. Body Shop, qui ont commencé avec certains produits aussi.
C'est des précurseurs, Body Shop, non?
C'est des précurseurs...
au niveau des
tests animaux. Point de vue cosmétique naturel, c'est vrai qu'ils sont là depuis longtemps.
Oui, ils sont là depuis longtemps, oui. Surtout au niveau du marché, grand marché peut-être. Oui. Parce qu'il y a différentes cosmétiques. Il y a la cosmétique qu'on trouve plus en salon d'esthétique, que les concentrations sont peut-être un petit peu plus élevées, avec des produits un petit peu plus recherchés, parce qu'on va cibler vraiment la crème spécifique. Et le produit grand marché, grande surface, que quand on achète la crème, ben, il faut que ça aille à une plus grande
Et à ce propos justement de marché grande surface, est-ce qu'il y a des garanties de produits véganes? Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont véganes si c'est marqué dessus? Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier, en fait?
Oui, bien, vous avez les labels, les certifications, le petit lapin rose, le cruelty-free. Et naturellement, il faut apprendre à regarder notre listing qui est la liste de formulation. Un petit peu comme quand on regarde notre liste d'ingrédients qu'on achète à l'épicerie. Donc, ça existe pour les produits aussi naturellement. C'est une loi. Donc, sur nos boîtes, nos cosmétiques, nos tubes, la listing qui est toujours là.
Donc, d'accord, donc si elle n'est pas là, c'est que c'est louche.
C'est très louche,
oui, j'achète. Mauvais diagnostic.
Oui, comme voyez-vous sur les produits, derrière les produits, tous les ingrédients, les inky qu'on appelle, sont là. Donc, effectivement, les gens doivent absolument s'assurer que la liste d'ingrédients est là. C'est sûr que des produits sur, pour ne pas le nommer, Amazon et tout ça qu'on achète de on ne sait pas parfois la provenance.
C'est pas d'où ça
vient, il paraît qu'il y a certains produits qui sont copiés, qui sont faits. Faut parfois émettre certains doutes, là. Mais ici, je pense que c'est quand même assez bien réglementé.
Mais ici, au Québec, au Canada, honnêtement, il n'y a vraiment plus de compagnies qui testent sur les animaux. On est rendu à autre chose. On a des bons laboratoires, sérieusement, de plus en plus. On a des bons laboratoires à Montréal. On en a aux alentours de Montréal, à Toronto aussi, des laboratoires de cosmétiques. On est vraiment rendu assez bien, oui.
Bien, merci beaucoup, Chantal Goyette, spécialiste dans le monde des cosmétiques. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'être venue.
Merci.
Merci.
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table? Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither, was I ever someone who could love you forever?
Was it ever said? Was it?
I ever love you? Does it really matter? Did I ever fight you? You don't need to answer. Did I ever leave you? Was I ever able? And are we still leaning across the old table?
Bonjour Claudine.
Rebonjour.
Bonjour.
Bonjour Claudine. Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. C'est
et
bien ça.
En compagnie de Claudine Desrochers.
Allô Claudine, c'est pour ça que quand le docteur a dit Claudine, je pensais que ça s'adressait à moi, j'avais oublié que tu étais là.
Non, c'est AU.
Oui, c'est ça, AU et O.
Alors aujourd'hui, nous recevons donc Claudine Desrochers qui a présenté des troubles alimentaires dans l'enfance. Et nous allons parler justement de ces troubles alimentaires, l'anorexie,
oui,
la boulimie, l'anorexie-boulimie. Alors,
exactement.
Est-ce que je peux vous poser une question? Ça, c'est la première question d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui déclenche un trouble alimentaire?
Ben, en fait, je pense que c'est un point important parce que souvent on pense que c'est simplement pour se remettre en forme, puis atteindre une certaine image physique, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense que Claudine, tu dois te reconnaître aussi là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup, dans le fond, un aspect émotif et psychologique à l'enclenchement, dans le fond, d'un trouble alimentaire. Ça peut être la pression de performer, ça peut être un traumatisme qu'on a vécu aussi, donc quelque chose qui...
un modèle à suivre, un modèle obligatoire à suivre.
Exactement, les étiquettes sociales. Hein, donc, on est dans une certaine industrie, par exemple, donc il y a des attentes par rapport à nous. Donc là, on se met cette pression-là. Donc, il y a vraiment différents facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on va amorcer un trouble alimentaire.
Oui, ouais. Puis voyez-vous, dans mon cas, il y avait un mélange de tout ça. Il y avait le désir d'être mannequin, il y avait le fait que je me rende à l'école privée, il y avait plus de performance dans cette école-là.
Exactement.
Et aussi le fait en fait, je pense aussi de ne pas savoir ce que j'allais faire au cégep, ça me stressait, tandis que quand tu contrôles ta nourriture, au moins tu sais que tu contrôles quelque chose.
Exactement.
C'était peut-être un mélange de tout ça, là.
Oui, mais c'est vraiment un mécanisme de défense dans le fond, c'est qu'on perd le contrôle ou on a zéro contrôle dans certains aspects de notre vie. La nutrition, on mange à tous les jours, donc c'est quelque chose avec lequel on est en contact à tous les jours, c'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler. Si on décide de ne pas manger, bien, il n'y a rien qui rentre dans notre corps, il n'y a rien qui va rentrer dans notre système digestif, donc effectivement, c'est vraiment une façon de compenser. Ouais.
Est-ce que l'image ou le schéma corporel peut nous donner des indications sur la qualité de l'alimentation. Est-ce qu'on peut, en un mot, est-ce qu'on peut en déduire, un autre mot, est-ce qu'on peut déduire de l'aspect de la personne le trouble, oui, ouais. Tout à fait, le trouble de l'alimentation?
Oui, ben, en fait, c'est vraiment un bon point parce que ce qui est important de comprendre, c'est que oui, l'apparence physique peut être un aspect qui va refléter peut-être un problème au niveau de l'alimentation. Ce qu'on représente physiquement souvent va être un résultat de comment on va traiter notre santé. Donc oui, ça peut être une indication qu'il y a un problème. Mais ce que je voulais vraiment discuter avec vous aujourd'hui, c'est que malheureusement, trop souvent, et moi, pour avoir travaillé à l'hôpital de Montréal pour enfants pendant 5 ans, avec justement des clientèles qui étaient atteintes de troubles alimentaires, je voyais souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons, par exemple, qui étaient à l'école, qui avaient des gros problèmes de santé parce que leur alimentation était très restrictive, mais à l'école, on n'était pas capable d'identifier qu'il y avait un risque parce que, exemple, le jeune homme ou la jeune femme était en surplus de poids. Puis, ça ne veut pas dire que parce qu'on est en surplus de poids, qu'on n'a pas un trouble alimentaire.
Non, ça veut dire qu'on peut être anorexique et être, oui, en surplus de poids.
Exactement. Donc, souvent, l'exemple typique, c'est, exemple, quelqu'un qui veut commencer à perdre du poids, n'a aucune idée comment le faire, se fie justement à ce qui est véhiculé dans les médias sociaux, va y aller avec des façons très drastiques de le faire, va commencer à développer des carences énergétiques et nutritionnelles et va s'en suivre aussi des comportements, donc l'acquisition de comportements beaucoup malsains, un rapport malsain aussi avec la nourriture. Donc, la perte de poids, il va en avoir une, mais parce que la personne va être encore en surplus de poids ou va avoir un poids normal, ben on n'est pas éduqué pour être en mesure d'identifier qu'il y a un problème au niveau du comportement alimentaire.
C'est comme, par exemple, le régime des bananes. Tu sais, les gens pensaient, ben, mange juste des bananes, puis tu vas maigrir.
Oui,
t'sais.
C'est le régime qui sont...
Ça débalance tout, hein, Claudine?
Oui.
Ben absolument. Je le dis toujours, c'est une question de quantité, mais c'est une question de variété aussi. Je veux dire, c'est très malsain de se lier simplement à une alimentation pour optimiser notre santé. On ne peut pas faire ça.
Mais Claudine aussi, quand on parle de troubles alimentaires, c'est les gens qui mangent trop, qui vont faire de l'hyperphagie. C'en est un trouble,
oui,
alimentaire.
Oui.
Ils vont être en surplus de poids, ces gens-là. Puis ils vont
mais
être
ils sont
complètement...
en très... Mais oui, mais c'est un surplus de poids qui se voit. Mais par exemple, Claudine, si je comprends bien, moi je fais 1m85, 85 kilos, je peux être un anorexique?
Absolument, parce que le trouble alimentaire, okay, va être vraiment défini par les comportements,
okay,
alimentaires,
okay,
et non par l'apparence physique. Donc, quelqu'un peut, le corps d'une personne peut être beaucoup plus fort en mode survie et garder plus de poids qu'une autre personne, par exemple, simplement parce qu'on est vraiment unique au niveau de notre métabolisme et tout ça. Mais oui, on peut pas... Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on peut pas déterminer si une personne a un trouble alimentaire ou pas, que ce soit la restriction ou de la boulimie ou de la purgation. C'est vraiment au niveau des comportements.
Mais c'est très impressionnant parce que ce sont des modèles nouveaux.
Oui, ben en fait, c'est comme ce que j'avais, hein. Je faisais un peu d'anorexie, puis je faisais un peu de boulimie. Donc, je mangeais pas beaucoup pendant des jours, je mangeais trop pendant certains jours. Alors, le poids finissait toujours par s'équilibrer. Mais dans ma tête, j'étais complètement malade, là. J'étais complètement obsédée, puis les gens pouvaient même pas le voir, là, tu sais.
Absolument. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est, on peut prendre un exemple beaucoup plus général qui est pas nécessairement concentré sur les troubles alimentaires, mais combien de personnes encore avec lesquelles je travaille que je dois éduquer au niveau de le chiffre sur la balance,
oui,
ne va pas déterminer si on est en santé ou pas, ne va pas dire si c'est du gras. Combien de fois on va entendre dans les médias sociaux, bon, mon médecin m'a dit aujourd'hui que j'étais obèse parce qu'ils sont lourds par rapport à leur grandeur, qui est un indice complètement désuet. Maintenant, on comprend que le muscle est beaucoup plus lourd que le gras. Pour avoir travaillé pendant des années, je suis encore d'ailleurs avec des athlètes de haut niveau, leur masse musculaire est tellement impressionnante que c'est sûr que si on fait à l'indice de masse corporelle, ils vont être obèses par rapport à leur grandeur.
Ouais.
Donc, c'est un peu le même principe, en fait. C'est pour ça que je discutais avec Dr. Barwell que j'avais vraiment envie d'apporter cet aspect-là des troubles alimentaires parce qu'on met trop des étiquettes rapidement sans vraiment savoir le fondement.
Claudine, une question qui m'interpelle.
Oui, vas-y, Catherine.
Est-ce que les gens les plus démunis de notre société, est-ce que les troubles alimentaires sont plus flagrants chez cette catégorie de personnes?
Les plus démunis, tu veux dire financièrement? Oui. Ou au niveau de la santé mentale?
Financièrement. Est-ce que ceux qui ont moins d'argent ont plus de risques d'avoir une maladie par rapport à la nourriture?
Ben, si on fait référence, en fait, aux déclencheurs d'un trouble alimentaire, vraiment tous les types de populations, peu importe leur démographie, leur background, là, j'excuse pour l'anglicisme, mais vraiment leur d'où ils viennent, leur culture, peuvent être atteints d'un trouble alimentaire. J'en vois autant dans les familles fortunées que dans les familles moins fortunées. J'en vois aussi à travers les différentes cultures. Donc, autant les Québécois que les Européens. Donc, il y a vraiment tous les types de personnes peuvent être atteints d'un trouble alimentaire.
Il n'y a pas de frontières. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, par exemple, puis que les derniers jours du mois, il n'a presque rien à manger, il va peut-être devenir obsédé par puis manger beaucoup, ou avoir moins de variété, donc peut-être plus au niveau nutritionnel, carences ou
c'est
choses comme ça.
Oui, OK, je comprends, mais à ce moment-là, on ne parle pas d'un trouble alimentaire, par contre. Mm-hmm. On va parler de malnutrition mm-hmm. à cause d'une situation qui est financière. Donc, oubliez pas, hein, les troubles alimentaires sont définis par les comportements alimentaires et les motivations. Donc, si je mange pas assez parce que j'ai pas beaucoup de soupe et j'arrive pas justement à la fin du mois, c'est un autre problématique complètement. Par contre, autant que des gens peuvent amorcer une perte de poids avec des comportements alimentaires qui ne sont pas optimales, autant aussi que quelqu'un qui est constamment en restriction peut avoir peur après, malgré l'abondance plus financière qui va amener plus d'abondance et d'accès à la nourriture, va avoir de la difficulté à réintégrer plus d'aliments, même si c'est dans son meilleur intérêt. Fait que, c'est comme une spirale, hein? Au début, on commence pas en disant « Ah, ben moi, je vais avoir un trouble alimentaire demain matin. » C'est vraiment un comportement qui va s'exacerber, qui va apporter des complications plus importantes et qui va finalement devenir un peu avec une composante mentale, psychologique, qui va malheureusement amener le désordre. Ouais.
Claudine, on a juste 45 secondes, malheureusement, mais je voudrais, ça va, c'est très intéressant, on est parti là-dedans. En 45 secondes, qu'est-ce qui fait le succès du traitement d'un trouble alimentaire? Quelle est la clé du succès pour une nutritionniste comme vous?
C'est définitivement de rétablir une relation saine avec l'alimentation, mais après ma base, c'est vraiment de réaugmenter les apports énergétiques, de les stabiliser, hein, dans le cas de boulimie par sa vie, donc c'est de stabiliser autant les habitudes alimentaires que les habitudes de vie. Donc, je dirais stabilité, quantité, qualité et aussi faire un travail, un cheminement sur soi pour rétablir une bonne relation avec la nourriture.
D'accord, OK.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Merci Claudine.
Merci Claudine.
Bye bye.
Bye bye.
Je n'ai plus d'amour à donner. Donner à donner. Même si la mort n'est pas encore à côté, pas encore à côté, pas encore à côté. Je sais où sont les papillons qui dormaient dans mon ventre, dormaient dans mon ventre, qui dormaient dans mon ventre. Si rien n'arrive pour rien, rien n'arrive pour rien, rien n'arrive pour rien, rien. Je sais bien. N'arrive pour rien, rien n'arrive pour rien, rien n'arrive.
Après Claudine Larivière, nutritionniste, nous recevons maintenant Mali Pradichit, naturopathe.
Bonjour.
Bonjour. Nous avons avec nous donc Claudine Desrochers qui a fait une ligne de produits naturels, vegan, etc. Et nous sommes à la limite de la naturopathie puisqu'il y a des huiles essentielles, il y a des produits tout à fait naturels. Est-ce qu'il serait possible de nous définir en deux minutes la naturopathie ? Parce que moi, je suis médecin et la naturopathie, en fait, ça m'est toujours passé un peu au-dessus.
Oui, un peu comme tout le monde qui en entend parler, mais on ne sait pas trop comme qu'est-ce qu'on fait. Le monde pense surtout qu'on va faire de la nutrition. Oui, on va en faire, ça va faire partie, on va regarder ce que la personne mange, mais en fait, c'est une médecine qui est surtout préventive, mais c'est d'aider la personne à aller retrouver une bonne hygiène de vie. Voir si la personne a un bon sommeil, une bonne digestion, au niveau du psycho-émotionnel aussi, au niveau de son activité physique. Donc, c'est surtout très holistique, puis on va aller tenir compte de la bio-individualité de la personne. Mmh. Donc, chaque personne, on prend comme un cas spécial.
D'accord. En fait, c'est une hygiène, grosso modo, c'est une hygiène de vie qui tient compte des principes de bon sens, mais aussi d'herboristerie et d'autres sciences ou pseudo-sciences, puisque je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça.
Il y a plusieurs naturopathes qui vont utiliser, il y a plusieurs outils, donc les huiles essentielles, les plantes, la nutrithérapie.
Les teintures mères aussi.
Oui, les teintures mères qui font partie de la gamme de la phytothérapie, les plantes, les macérés, les bourgeons, donc qui englobe aussi l'homéopathie. Mm-hmm. Donc, ça va dépendre de la personne. On va voir si la personne est plus nutrithérapie, plus avec la nourriture ou encore avec des suppléments. Il y a des personnes que je vois puis qui ne veulent absolument pas prendre de suppléments puis qui vont y aller juste avec la nourriture ou encore des plantes, des tisanes, des huiles essentielles.
D'accord. Est-ce que vous faites un questionnaire vraiment global?
Global, oui.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que la première rencontre, on pose toutes les questions puis c'est là le moment que la personne va aller nommer tous ses petits bobos.
En fait, ce n'est pas... À l'école de médecine, on considérait ça comme finalement pas une science, hein, mais c'est quand même une médecine.
Et
on...
Bienvenue.
Ah oui, c'est vrai. Mais en réalité, oui. Je ne considère même pas ça comme une médecine parallèle, mais je pense que c'est une médecine complémentaire. C'est-à-dire
absolument.
Qu'en fait, à partir du moment mm-hmm. où on est traité par la médecine traditionnelle qui a fait ses preuves d'une manière scientifique, pourquoi s'en priver?
Oui, c'est sûr, tout à fait.
Ouais. Il y a des pays encore qui font conjointement ensemble. On va travailler avec un naturopathe et un médecin dans les hôpitaux.
Ah oui, dans quel pays ça?
Plus en Europe.
D'accord. Ils sont plus en avance.
Oui.
Alors qu'en fait, en France, ça n'est pas du tout reconnu. Alors, je voulais vous poser une
les
question.
Les maudits français.
Maudits français. Mais c'est bien connu. Mais c'était les bons Belges. Les bons Belges, ils reconnaissent. Ils reconnaissent la naturopathie.
Okay. Ouais.
Et comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un dans la boulimie ou dans l'anorexie à garder ses aliments? Est-ce que vous avez des moyens de le faire? Après avoir bien entendu réglé tous les problèmes ou du moins apporté quelque chose psychologiquement
oui,
et médicalement.
Premièrement, on va aller s'assurer que la personne a un soutien psychologique avec un traitement parallèle à ça. Après ça, on va aller voir au niveau les relations qu'elle a avec la nourriture. Mmh. Donc, aller comme décortiquer, puis aller amener la personne à aller chercher une qualité alimentaire, puis aller chercher les carences qu'elle a besoin.
Peut-être calmer de l'anxiété.
Calmer l'anxiété, exactement, puis aller chercher de la nourriture de qualité. Et puis, dédramatiser aussi, comme tout ce qui est calorique et tout ce qui est gras et tout ça, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin.
Ça peut être un complément à la nutrition, par exemple, à un nutritionniste?
Ça peut être un complément pour... on ne travaille pas de la même façon, mais oui, ça va être complémentaire. Ouais.
Global, quand on parlait d'anxiété et tout ça, le nutritionniste va peut-être moins toucher cet aspect-là, tandis que vous pouvez là, faire
exactement.
Quelque chose.
Exactement. Parce qu'on va aller voir les carences au niveau du système nerveux puis les troubles digestifs aussi, qui a un lien direct avec le système nerveux.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'a comme produit la naturopathe pour calmer justement une anxiété, une petite anxiété de base qu'on trouve très souvent chez nous, en fait, dans la société en général. Est-ce que vous avez des produits à nous proposer pratiquement?
Il y a plusieurs choses qui peuvent, comme dans les huiles essentielles, par exemple, il y a des huiles essentielles qu'on va aller juste sentir puis qui vont aller calmer le système nerveux. Donc, c'est des molécules qu'on va inhaler, qui vont aller directement dans le cerveau. C'est des petites molécules qui vont aller agir puis qui vont aller calmer le système nerveux. Sinon, il y a des, comme la L-théanine qu'on peut prendre en supplément, qu'on retrouve dans la plante, qui va être très populaire chez les personnes qui font de l'anxiété ou qui ont une tendance nerveuse. Ou sinon encore, il y a des dans l'homéopathie que moi j'aime beaucoup, que j'utilise souvent aussi dans les fleurs de Bach. C'est des...
Les quoi?
Des fleurs du Dr. Bach.
Vous les connaissez?
C'est des élixirs de fleurs.
C'est très bon.
Puis que c'est très bon pour le stress, l'anxiété.
D'accord.
Ouais.
Ah, c'est déjà tout préparé?
C'est tout préparé.
C'est préparé déjà, c'est ça, c'est
des huiles essentielles.
Non, c'est pas exactement des huiles essentielles. Les fleurs du Dr. Bach, c'est des dilutions de particules de fleurs et puis qui ont été macérées avec l'énergie lunaire et avec des cristaux, avec de l'eau pure, puis qui ont une action protectrice comme de la plante. Donc, soit pour calmer le système nerveux, pour les peurs, les...
Il y a carrément des fioles pour ceux qui souffrent de crise de panique. C'est carrément marqué crise de panique. Là, c'est intéressant parce que ça soigne à peu près n'importe quel mot. Vous ne connaissez pas les fioles de Bach?
Non, moi, je ne connais pas ça. Je connais les anxiolytiques, je connais les activants, je connais les Prozac.
Il y a déjà beaucoup de choses à connaître.
Et la méditation.
Est-ce que les oméga 3 ont un impact sur l'anxiété?
Absolument, oui. Il va aller travailler, il va réduire l'anxiété, il va réduire les maladies au niveau comme Alzheimer, dépression, anxiété. Donc, les oméga 3.
Vous en parlez un équilibre. Moi, je trouve ça. En fait, on en a tellement parlé dans les médias dans les dernières années que tu dis ah, mon Dieu, tu ne prends pas d'oméga. Oméga 3, 6, 9. Moi, je ne prends pas. Je veux dire, je ne suis pas une spécialiste. Je ne prends pas de chance. Je ne veux pas déséquilibrer non plus mes oméga. Fait que je prends les 3, 6, 9. Puis je me dis, coudonc, ça doit être bon, là, certainement. Surtout que je vis quand même beaucoup sur l'adrénaline, l'intensité, le stress et tout ça. Alors, je pense que c'est important là, de bien nourrir son cerveau.
Oui, exactement.
Vous prenez aussi de la vitamine D, Claudine?
La vitamine D, ça aussi, on en a parlé dans les médias il y a quelques années.
Oui,
comme quoi, c'était très bon pour prévenir, entre autres, le cancer, mais aussi au niveau des humeurs et tout. Moi, ça m'affecte l'hiver et l'automne, le manque d'ensoleillement, ça m'affecte et je trouve que ça aide beaucoup à ce niveau-là. Là.
Oui, la vitamine D, surtout qu'on l'obtient par le soleil puis qu'on n'en a pas souvent ici.
Dans les pays nordiques, on devrait tous en prendre.
Exactement.
Mais, il est recommandé d'en prendre de toute façon actuellement, maintenant. Environ de 400 à 600 unités par jour. Ça préserve les femmes de l'ostéopause quand même. Hein. C'est très important.
Exactement.
Et les enfants, ça les protège du rachitisme.
Et docteur Baruel, ça protège aussi du cancer du sein. À l'heure actuelle, lorsqu'on interview les oncologues, la seule chose qui peut être préventif pour le cancer du sein, c'est la vitamine D.
Et la mégadose aussi.
Mégadose de vitamine D?
Oui.
Absolument.
Les mégadoses, c'est-à-dire des doses très importantes?
50 000 BTU.
Oui, mais tous les trois mois. Tous les
chaque semaine. Mois. Comment? Chaque
BTU, semaine. Ça, c'est la bonbonne de propane pour le barbecue.
C'est des unités internationales. Comme la dose pour qu'on a besoin, c'est 500, mais pour être thérapeutique, on peut aller de 1 000 à 5 000, puis dans des cas de cancer, 10 000.
50 000. Oui.
L'important, c'est que ça ne fasse pas de mal. Et il vaut mieux le faire avec sous surveillance médicale.
Exactement.
Oui, c'est bien.
Merci.
Thank you.
Alors, je vous parle à l'instant en compagnie avec notre invité Claudine Desrochers et Dr Baruel d'un livre qui s'appelle « Sauvez votre peau, aimez-vous enfin » de Fabrice Midal. On a également parlé de Fabrice Midal la semaine dernière, « Foutez-vous la paix ». Et donc, on renoue avec le plaisir de lire cet homme-là. Cet homme-là qui est un philosophe, c'est un peu le repère en termes de méditation en France. Il écrit plusieurs livres. Et avec ce livre-là, il dit qu'il faut se faire confiance et laisser place à la magie de la vie, un peu comme danser avec la vie. Je sais, ça fait un petit peu ésotérique, mais c'est très intéressant ce qu'il raconte. On a lu avec le docteur Baruel un des chapitres de son livre, c'est-à-dire « Sachez vivre dans l'inaccessible ». Alors, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire « Sachez vivre dans l'inaccessible » Lui dit que... je suis perdue dans mes papiers. Ah oui, il dit... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après 30 ans de vie commune, je continue d'être surpris par mon compagnon. Je le suis aussi par des collègues que je côtoie depuis presque aussi longtemps. Je ne leur connaissais pas certains talents qui se dévoilent, des goûts, des envies, des répulsions, qu'ils ignoraient sans doute eux aussi. Même nos enfants que nous mettons au monde et élevons, que nous imaginions connaître sur le bout des doigts, restent pour nous une énigme, une boîte à surprises. Donc concrètement, ce qu'il dit, c'est qu'on commence quelque chose, on ne sait jamais où est-ce qu'on va, et qu'il faut vraiment essayer de se laisser aller dans quelque chose de plus grand que nous et se faire confiance. Et c'est un peu d'ailleurs, tous ces livres sont un peu teintés du même discours. Vous avez lu Monsieur Midal également, Docteur Baruel. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est exactement ça. C'est un petit peu ésotérique. C'est un petit peu ce que vous avez dit. C'est un peu. On a une sensation d'ésotérisme, mais il y a aussi la notion de retrouver son, du moins accepter son moi profond. C'est-à-dire accepter de retrouver ses propres ressources en soi. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de la méditation dans les crises d'angoisse qui permettait de se retrouver soi-même, c'est-à-dire un humain et en pleine possession de sa personnalité, de son individualité. Ça, c'est quelque chose de primordial, c'est la première chose à faire. Et ensuite, c'est pour s'aimer. Et ensuite, là, il dit, acceptez-vous et acceptez de découvrir l'aspect que vous ne connaissez pas, sortez des schémas que vous vous êtes imposés, et qui vous limite. Mmh. Il donne l'exemple d'un jeune pianiste qui a appris pendant de 8 ans à 10 ans ou à 12 ans, je ne sais plus, à faire du piano. Et il en a eu marre. Il a arrêté, comme beaucoup d'enfants en fait.
Mmh. Oui.
Comme beaucoup d'enfants qui arrêtent le piano à un certain âge. Et puis ensuite, il a été à un concert et il a entendu un pianiste jouer. Ça lui a redonné le goût d'y aller. Et il était trop vieux pour le faire. Mmh. Mais pourtant, il s'est tellement laissé aller dedans avec son âme et sa passion, et non pas avec sa technique, qu'il a fini par remporter non pas le premier prix, mais le deuxième ou le troisième prix devant une foule de jeunes qui, eux, travaillaient techniquement, comme on leur avait appris, comme il le fallait.
Mmh.
Alors que lui, ce qui a emporté l'adhésion du jury...
Oui.
C'est qu'il a sorti son âme.
C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, il maîtrisait l'instrument.
Absolument.
Il n'avait pas besoin de se concentrer sur ses doigts,
exactement,
les pieds, etc.
Voilà.
Et là, c'est vraiment... C'est tout le côté intuitif, puis passionné, humain qui est sorti. Là. Et ça se ressent, j'imagine.
Et plus que ça, Claudine...
Il ne le jouait pas de façon cérébrale, il le jouait avec le cœur.
Exactement.
C'est vrai. Mais plus que ça, c'est qu'il n'était plus exigeant. Il allait, il s'est,
oui,
laissé,
s'est laissé,
il s'est
aller.
Abandonné.
Uh-huh.
L'idée d'abandon est très forte dans ce livre et dans tous ces chapitres. C'est-à-dire qu'il a joué, puis... advienne que pourra, j'y vais. Et il a recommencé. Hein. Ça a été un deuxième souffle dans la carrière de cet homme. C'est-à-dire qu'il y a aussi une synchronicité. Il parle de synchronicité et de se laisser aller.
De se laisser aller. Mais moi, ce qui m'accroche dans ce que vous avez dit, c'est le fait de sortir un petit peu du carcan. On s'en impose beaucoup en tant qu'adulte. Je suis une mère de famille, donc je dois agir comme ça. Je suis animatrice de télé, donc je dois agir comme ça. Et puis, un peu comme je vous disais au départ, quand on est ado, quand on est jeune, il faut vivre toutes sortes de choses.
Exactement.
On n'est pas obligé d'arrêter parce qu'on est adulte. Moi, je prône, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent, je pense à ça. Les gens qui sont dépressifs ou qui sont, tu sais, tendance dépressif, bon, parfois, on n'a pas les moyens, mais si on pouvait juste, par exemple, travailler pour une cause humanitaire, dire, bon, j'en ai marre, je suis un peu dépressée, je m'embarque dans un projet, j'essaie de partir 2 mois dans telle cause humanitaire, sortir du pays, sortir de ma vie, sortir de mon quotidien, sortir de mon petit appartement, sortir de ce qui, de toujours la routine qui m'oppresse, puis vivre autre chose, m'ouvrir à autre chose. Je vous garantis que les gens auraient moins besoin de Prozac ou de d'antidépresseurs si on leur donnait l'occasion de sortir de leur carcan quotidien pour vivre autre chose.
Mais il faudrait qu'ils en aient la possibilité aussi, parce que nous tous, et d'ailleurs, vous en avez été la première, la victime.
Il faudrait qu'il y ait des programmes qui...
Vous avez été la victime lorsque vous étiez petite, avec l'anorexie.
Tout à fait, adolescente, oui.
Vous étiez donc dans un carcan et dans un modèle. Et c'est pas facile de sortir de ça.
Non, c'est pas facile de sortir de ça, absolument. Hmm.
Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, si on veut se sortir de ça, sauvez votre peau, aimez-vous enfin. Et c'est un livre écrit par un libre penseur. Et ce que j'aime beaucoup dans votre discours, Claudine, c'est votre... Vous avez l'air d'un esprit libre.
Ben, il faut... Je pense qu'il faut essayer plein de choses. La vie, il faut pas... En tout cas, c'est sûr qu'il y a des moyens financiers, des moyens techniques. Des fois, on peut pas se permettre de... Mais... Comment on peut quand même, malgré tout, essayer de diminuer ces barrières-là pour essayer de tenter des choses, d'essayer autre chose, quitte à se casser la gueule un peu, mais au moins, on va essayer différents trucs, là, tu sais. Que ne serait-ce que c'est de s'impliquer bénévolement. Combien de gens se restreignent chez eux, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire? Ben, soyez bénévoles, prenez un petit peu de temps. Vous allez rencontrer des gens, vous allez vous ouvrir les esprits, vous allez avoir de nouvelles conversations qui, elles, vont peut-être vous ouvrir à un tout nouveau monde.
Un plaidoyer stimulant.
Merci beaucoup, Claudine.
Quelle femme voudra attiser ma main? Toucher ma paume de poils chauffés à blanc, ma main comme un œil écarquillé, mes phalanges d'huile rance et de cacophonie, ces sauts ancrés dans la pure peine d'amour, ces sauts ancrés dans la pure peine d'amour. Attendra la calmie, le grand dépaysement du nomade que je suis, le front toujours incendié par le plus céleste voyage, le plus céleste. Risquer le grand dessalage, dans un rapide classé catastrophe. Dans un rapide classé catastrophe.
Alors maintenant, nous sommes avec Catherine Bourderon et Claudine Desrochers et Dr François Baruel. Nous allons revenir sur quelques points d'un point de vue médical. La première chose, c'est comment se sort-on des troubles alimentaires?
Eh mon Dieu!
Comment est-ce que vous avez fait?
Ben, je pense que c'est tellement individuel à chacun. Comme disait tout à l'heure Claudine Larivière, et elle avait bien raison, c'est qu'il y a un mélange de notre milieu social, hein, ce qui nous entoure, notre au niveau familial, parce que la nourriture, c'est souvent très associé à la maman aussi, puis au contexte familial. Il y a le contexte aussi de notre personnalité. Si on est perfectionniste de nature, ben on peut se stresser davantage puis vouloir contrôler l'alimentation. Si on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler des aspects de notre vie, on peut avoir vécu des traumatismes, avoir manqué de nourriture quand on était jeune. Moi, je connais quelqu'un qui se lève la nuit pour manger parce que quand il était jeune, il avait manqué de nourriture. J'ai une autre personne qui cache de la nourriture dans son lave-vaisselle est devenu un garde-manger. Elle ne se sert plus de son lave-vaisselle. Elle met spécial. De la nourriture sèche, des biscuits, des choses comme ça, parce qu'elle a manqué de nourriture. Voyez-vous, c'en est une forme de trouble alimentaire. Donc, comment on sort de ça? Je pense qu'il n'y a pas de recette unique, mais certainement qu'il faut parler. Certainement qu'il faut aller voir soit son CLSC, un service de psychologue ou tout ça. Il faut se sortir, il faut en parler. À partir du moment où on en parle, là, il peut se présenter des solutions. Et bien sûr, c'est de travailler sur soi avec de l'aide et c'est également d'identifier pourquoi on a cette obsession-là, d'où viennent les sources de ça pour être capable de travailler sur le problème en question.
Ça, on a quelques réponses, justement, d'où ça vient.
Oui, exactement. Puis de trouver une source de joie, une source de bonheur, une source de passion en dedans de nous qui va faire en sorte qu'on va nourrir de façon positive notre corps. On va mettre de l'énergie positive au lieu de se concentrer uniquement sur le négatif et sur ce problème-là.
Ce qu'il faut, c'est que la personne ou l'anorexique ou le boulimique, qui souvent, lorsqu'il est anorexique, c'est une question d'abord de modèle physique, mais c'est aussi une question de maîtrise de toutes ces pulsions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne refuse d'absorber la nourriture qui représente une forme de stimulus extérieur. Ça peut se représenter comme ça, mais ça marche comme ça. Et le boulimique, qui lui va vomir, c'est l'inverse. Il va rejeter les choses. Il les rejette en les vomissant. Donc il faut accepter, il faut que le patient accepte toutes ces informations et qu'il accepte de ne pas être exactement comme il voudrait être. Elle est là la question. Alors il y a toujours des histoires de complexe d'Oedipe, de ceci et de cela, qui ne sont peut-être pas forcément complètement réglées. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a
bien entendu autre chose.
C'est complexe. Et il faut accepter que ça peut prendre du temps.
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Ça ne se règle pas du jour au lendemain. Là. Pas parce qu'on le comprend au niveau cérébral qu'au niveau émotif, on le comprend. Donc, il faut se laisser du temps.
Et ça prend une psychothérapie.
Ah oui.
C'est absolument indispensable de faire une psychothérapie dans
ce
cas-là.
Et avec des psychologues qui ont une spécialité dans ça, je précise.
Oui.
Parce qu'on peut tomber sur des psychologues qui n'ont pas nécessairement des affinités avec ce trouble-là. Puis peut-être pas nécessairement bien conseiller la personne. Moi, je pense qu'il faut... Il y a des organismes qui existent, comme ANEB, hein, qui fait des sessions, Anorexie Boulimie Québec, qui fait des sessions, des rencontres gratuites, des sessions de groupe et tout ça. ANEB Québec, allez sur Internet et vous allez trouver plein de ressources. C'est très important.
D'accord.
J'ai d'ailleurs été marine pour ANEB.
ANEB.
Oui, Anorexie Boulimie Québec. Beaucoup de ressources. Les gens peuvent y aller de façon anonyme sur le site Internet, les jeunes, entre autres. Mais il y a des ressources. Et puis, voyez-vous, il y a un événement là, dans 2 semaines. J'y serai en tant qu'ex-marraine. Pour moi, c'est une cause qui est très importante. Là.
Qu'est-ce qui vous motive toujours à épouser ces causes? Est-ce que c'est parce que vous voulez populariser cette maladie? Il y a des tabous encore?
Mais il y a des tabous. Puis je trouve de montrer qu'on peut s'en sortir, qu'on peut être heureuse et qu'on peut retrouver un rapport sain avec l'alimentation. Et parce que quand on a ces troubles-là, nos points de repère sont plus là. On ne sait plus quand on a faim, si on a assez mangé, si on a trop mangé. Notre rapport à la nourriture est complètement désaxé. Donc, de pouvoir retrouver un plaisir à manger, de plus être obsédé, de pas toujours... C'est possible. Et quand on est dans ça, on pense que toute notre vie, on va être pris avec ce problème-là.
C'est vrai, hein?
C'est pas vrai.
C'est vrai ce que vous dites. Ça n'a pas d'allure. On voit un mur devant nous.
Oui, on pense que c'est comme ça, ça va être la vie, puis on est découragé. Mais non, il y a des solutions. Et oui, on peut être heureux. Dans mon cas, mais il y a des femmes de 75 ans qui ont encore des troubles alimentaires, qui en ont eu toute leur vie. Mais tu sais, ça dépend des traumatismes, ça dépend de beaucoup de choses. Là.
Est-ce que l'entourage peut aider à nous remettre sur pied?
L'entourage peut aider, l'entourage peut nuire aussi un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'en parlent pas trop, parce que des fois, si les parents sont toujours au-dessus de nous, puis là, t'as-tu mangé, t'as-tu passé... T'sais, des parents, pour eux, c'est difficile de comprendre. Qu'on est un peu tordu avec la nourriture.
Oui, c'est sûr.
Les gens qui n'ont aucun trouble alimentaire ont de la difficulté à saisir. Donc, c'est pour ça que les gens en parlent moins.
C'est pour ça qu'il y a 30 ans, on séparait les enfants des parents.
Ah oui.
Il y a 30 ans. Parfois, très souvent et facilement, on les mettait à l'hôpital.
France?
Oui, en France, on les séparait. Maintenant, c'est l'inverse. On fait une psychothérapie de groupe ou une psychothérapie de famille de manière à réconcilier tout le monde, si
mais
je puis dire.
Hein?
Mais c'est vrai qu'il faut que l'entourage a un grand rôle.
Un grand rôle à jouer, absolument. Oui.
L'entourage et les médias, les réseaux sociaux, peut-être?
Oui, c'est sûr. Voyez-vous, c'est l'image qu'on projette pour les femmes, hein, les modèles, les canons de beauté encore. Mm. Heureusement, il y a des Beyoncé qui dansent sur scène. Elle vient d'avoir 2 jumeaux, puis elle dansait, puis elle est encore ronde, elle s'habillait sexy, c'est parfait. C'est beau une femme qui a des formes. Oui, exactement. Oui.
Ben oui, bien sûr. À propos de vos livres de recettes
et
de votre cartable.
Oui, le cartable de ma mère.
Vous avez encore des recettes qui traînent?
Oh oui, j'en ai encore des recettes qui traînent, puis je m'inspire aussi du quotidien. J'en invente parfois au quotidien.
Merci beaucoup, Claudine.
Merci.
Vous êtes vraiment un modèle pour plusieurs raisons. Vous faites des livres de recettes, vous lancez dans les produits cosmétiques. Merci d'être là, vous nous faites du bien.
J'y vais avec ce qui me passionne.
Il y a quelque chose que je retiens dans votre discours qui est teinté un peu dans votre modus operandi. Vous avez une joie de vivre inébranlable.
Ah, ben c'est gentil. Oui, en fait, ben je ne suis pas parfaite, hein? Je ne suis pas toujours comme ça. Des fois, je me lève puis je ne suis pas très de bonne humeur pour toutes sortes de raisons. Parce que je suis humaine, puis des fois, on a des frustrations d'ici de ça. Mais je pense que ma nature profonde est une nature joyeuse.
Positive aussi,
oui. Puis j'ai vécu des hauts et des bas, hein. Je veux dire, là, je peux pas vous faire ma conférence, mais dans ma conférence « Suivre son cœur », je parle de un petit peu l'envers du décor de ma vie, où j'ai dû faire des choix, puis quand on a des choix, la vie est une suite de choix, ben il faut suivre son cœur, puis quand on le suit pas, parfois on prend des mauvaises décisions. Alors je parle des bonnes et des mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, tout ça pour vous dire que j'ai vécu des choses des fois pas toujours évidentes, comme tout le monde, mais il faut... Il y a une amie qui m'a dit, tu sais, Claudine, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. C'est tellement simple comme phrase. On dit ça à des enfants qui sont en thérapie. Et c'est vrai. Mm-hmm. Il faut y croire que derrière les nuages, peu importe s'ils sont très noirs ou un peu gris ou que ça va pas, le soleil est toujours là. Et ça, c'est ancré en moi.
On le voit dans vos yeux, ce soleil-là. Et vos projets...
Mes projets, ben mon Dieu, moi, je suis une fille de projet. Donc, Shakti Cosmétique, on en est à nos débuts. Nous allons être distribués bientôt. Who knows? Permettez-moi l'anglicisme. On veut conquérir le Canada et pourquoi pas l'Europe. Donc, ça, c'est à voir. Beaucoup de choses avec Shakti Cosmétique. Également, côté cuisine, ben, je ne sais pas ce qui s'en vient pour moi. Je ne sais pas s'il y aura un autre livre. Côté télé, non plus.
Télé, on peut vous faire des offres?
Ah, j'aimerais ça. Mais oui, certainement. J'ai écrit des projets télé. J'attends des nouvelles.
Oyez.
Oui, j'aimerais beaucoup ça. Puis d'ailleurs, les gens n'arrêtent pas de m'écrire sur Facebook. Quand est-ce qu'on va vous revoir?
Oui, c'est
Joutine.
Bien.
J'ai l'impression que les gens ont besoin de légèreté, ont besoin de joie de vivre. Parce que c'est pas facile, hein? On lit l'actualité, on voit ce qui se passe, et je pense que les gens ont besoin d'avoir du plaisir, de simplicité et de pouvoir rigoler un petit peu.
Plus les temps sont troublés, plus on a besoin de simplicité et de légèreté.
Oui, alors j'aimerais ça pouvoir y participer, c'est certain.
Donc, radio peut-être aussi?
Ah, la radio! J'ai commencé à la radio, j'adorerais faire de la radio.
Et qu'est-ce que vous n'avez pas comme projet? Le cinéma?
Ah, ça, j'aimerais ça jouer aussi. Depuis que je suis toute petite, j'aimerais ça être comédienne.
Las Vegas.
Oui,
vous avez dit tout
et
à l'heure
chanté aussi.
Tout à l'heure vous avez dit qu'il va être ouvert, il fallait s'ouvrir. Alors on vous le propose.
Il faut s'ouvrir. D'ailleurs, j'ai participé aux Yeux de la danse cette année.
Oui, c'est vrai.
Je ne m'en sentais pas capable, puis finalement, on a gagné la première fois, puis on a fait une deuxième prestation et je suis allée au bout de ma limite là, c'était quand même stressant tout ça, mais j'ai adoré. Des fois faut le faire.
Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez me poser
mais
après
vous...
cette émission qui est sur la santé?
Exactement.
N'oublions pas.
Ben, comme j'ai lancé Shakti Cosmétique, c'est des produits qui sont sans ingrédients chimiques. Est-ce que vous pensez en tant que médecin, justement, que c'est bon de privilégier des produits de soins qui ne contiennent aucune molécule chimique dérivée du pétrole, par exemple, ou des silicones et tout ça?
C'est vrai qu'actuellement, on est envahi par toutes les molécules chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont des pesticides, qui sont des produits qui sont cancérigènes, et qu'on a tendance à aller vers les produits végétaux et même véganes. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, avec tout de même une petite nuance. C'est que la fameuse vaseline qu'on utilise dans beaucoup de médicaments, c'est du pétrole.
Oui, tout à fait.
Et c'est pas si dangereux que ça. Bon, mais d'autre part...
Ben, si on l'utilise à tous les jours, peut-être, par contre?
Ah, pas forcément, mais il y a des produits qui sont reconnus, qui ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché, qui sont à base de vaseline. Mais ça, c'est un petit aspect.
Oui, oui.
Il y a aussi un autre aspect que je voudrais quand même bien voir, c'est les produits végétaux. Il y a la ciguë, il y a le cura,
le
strychnine.
Pas parce que c'est naturel,
voilà,
que c'est sans danger.
C'est ça. Donc, il faut bien le nuancer.
C'est sûr.
Il faut, par contre... Les huiles essentielles sont très intéressantes parce que c'est très efficace. Mais là encore, il faut bien respecter le mélange et
le dosage
qui doit être millimétrique. Parce
absolument.
Que j'ai vu beaucoup d'eczéma, d'urticaire, d'asthme, d'intoxication, des brûlures aussi avec tous ces produits. Et je recommanderais soit d'acheter des huiles essentielles et de faire ces mélanges soi-même avec de l'alcool, mais après s'être fait briefer, si je puis dire,
absolument,
par le pharmacien et ou son médecin, ou les deux.
Ou la naturopathe
aussi. Ou bien
aussi.
D'acheter le matériel déjà fabriqué et déjà mélangé.
Respecter les dosages et tout ça, les conditions de base. Je suis vraiment d'accord avec vous.
Cette émission se termine là-dessus. Et nous voulons dire un grand merci à Claudine Desrochers de nous avoir accompagnés. Merci aux chroniqueuses qui nous ont donné aussi le goût de la santé. Mali Pradichit, naturopathe, Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, et Chantal Goyette, spécialiste du monde des cosmétiques. Cette émission n'aurait pas été possible sans Maurice Bolduc à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Benoît Rassette à la recherche et à la réalisation.
Ici Catherine Bourderon.
Docteur François Barbel. Qu'on se le dise, le goût,
c'est bon pour la santé.